de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission qui vous propose souvent de jouer au blind test, mais c'est quand on n'a pas de réalisateur, d'acteur, de producteur ou de scénariste à vous faire entendre, et aujourd'hui c'est le cas. On va écouter le scénariste et celui qui a fait la musique du film d'animation Arco, qui a été le grand vainqueur du festival du film d'animation d'Annecy de cette année. Bonjour Sophia.
Bonjour Vincent.
Alors tu es la seule aujourd'hui en studio et tu vas nous parler d'un film qui était à Cannes et qui a été victorieux.
Oui, un film qui a remporté une palme, la Queer Palme. C'est le film de l'actrice et réalisatrice Avzia Erzi. Il s'agit de La Petite Dernière.
Et puis il y a aussi le prix d'interprétation féminine.
Hein. Tout à fait, pour son actrice principale Nadia Meliti.
C'est pas rien. Guillaume, qui n'est pas avec nous, a réussi à enregistrer sa petite chronique sur Black Phone, actuellement sur les écrans, un film qui marche plutôt bien aux États-Unis. Moi, je vous parlerai également de La Disparition de Joseph Mengele, film fabuleux de Kirill Serebrennikov qui était présent à Cannes. Mais nous allons commencer avec Kaamelott. Après la chute de Kaamelott et la colère des dieux, eh bien, le roi Arthur Pendragon forme une nouvelle table ronde et envoie ses chevaliers à travers le monde pour prouver leur valeur.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde.
Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas.
Le premier opus de la série Kaamelott en 2021 avait réuni 2,6 millions de spectateurs. Alors pourquoi donc ne pas continuer à proposer eh bien, les aventures d'Arthur, de ses sujets comme de son ennemi Lancelot? C'est ce à quoi s'est attaché Alexandre Astier. Après tout, Kaamelott était eh bien, une série. Hein, et en regardant Kaamelott deuxième volet partie 1, il faut bien se demander si le grand écran va bien à cette histoire et si la saga ne devrait pas s'arrêter en chemin. Le premier volet était pourtant prometteur. Hein, sans doute la bataille qui s'y menait y était pour quelque chose. Dans ce deuxième volet, le roi Arthur est quasi alors dépressif, ne passant son temps qu'à dormir. Son palais détruit, il se satisfait d'être hébergé. Dans son dos, on convoque une nouvelle réunion de la table ronde. Il est alors décidé, mais pas à l'unanimité, bien qu'il faut que chacun ait une quête. Alors pourquoi pas? Cela permet au film qui traînait un peu en bavardage de nous lancer dans l'épopée fantasy.
Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon.
Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais.
En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début.
C'est un message des dieux, c'est sûr.
Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui.
Ah mais deux secondes peut-être, non?
L'aventure, c'est pas là, va vite.
Allez hop, table ronde.
Disons-le nettement, hein, ce Kaamelott deuxième volet a quelque chose de décevant. Hein. Certes, il y a toujours des dialogues ciselés de punchline, écrits par Alexandre Astier, toujours ces êtres balourds, ces magiciens, ces chevaliers plus ou moins aguerris, qui se retrouvent dans de drôles de situations. Il y a aussi un casting alléchant avec des inconnus hein, qui cassent la baraque, et puis des bons numéros comme Alain Chabat, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac, Thomas VDB, Audrey Fleurot, et puis tiens, l'humoriste Haroun. C'est de la comédie légère hein, qui s'exprime au travers de divers intrigues dont on connaît ou pas les personnages et leur potentiel comique. Mais au bout des 2h20 que dure le film, il y a quand même le sentiment d'un grand déballage de situation. Après un début poussif, Kaamelott deuxième volet tente de nous emmener dans des quêtes donc, et on est là dans un cinéma qui se veut épique, nous plongeant dans un univers de fantasy, mais c'est toujours dans le décalage, la distance. Il n'y a même pas vraiment d'exploit parodique d'un Seigneur des Anneaux, mais pas non plus le plaisir que l'on peut avoir à regarder un film au premier degré de son expression, un vrai film épique, donc bien un Seigneur des Anneaux.
Puisque
contrevenant à mes ordres. Vous n'avez pas suivi les autres salopards de fumier d'Orcanien dans leur exil.
Mais si, je suis pour rien. C'est arrivé au bateau, ils se retournent vers moi, ils me font, il n'y a pas assez de place. Et ils me larguent sur le sable avec mes valoches comme un cabillaud crevé.
Mais je m'en fous de ça, vous n'allez pas me rechanter tout le couplet.
Mais si, j'ai sillonné le littoral jusqu'à la nuit, mais pas moyen de foutre la main sur un autre bateau. Et là, paf, la milice. Vous n'êtes pas censé être sur l'île des bannis, ils me font. Si, sauf que je risque pas d'y aller à la nage. Et là, alors la patatras en prison.
Les autres, ils seraient pas revenus des fois?
Les autres?
Moi qu'ils aient fait comme vous, qu'ils soient jamais partis?
Non mais, parce que...
Attention, essayez pas de les couvrir, c'est vraiment pas votre intérêt.
Mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. Si je pouvais vous balancer cette bande de tartignoles, vous n'auriez même pas besoin de me le demander.
Kaamelott, deuxième volet, se perd entre deux postures, celle de la légèreté, celle de l'épique, avec quelques renforts d'effets spéciaux dégainés ici et là. Sans doute, les fans de la série vont encore y trouver leur compte, mais ceux qui ne sont pas habitués aux saillies médiévales un peu moins. La faute à un récit peut-être trop atonique. Alors c'est bien simple, quand le film s'achève, c'est un peu par surprise. Hein. Effectivement, on a besoin d'une seconde partie pour savoir où tout cela peut bien mener. Mais contrairement à une série qui est diffusée sur une plateforme ou à la télévision, eh bien là, il faudra attendre plus d'un an. Kaamelott, deuxième volet partie 1, est en salle depuis le 22 octobre. Une jeune étudiante issue d'une famille musulmane en banlieue découvre son identité et ses désirs alors qu'elle tente de concilier foi, tradition et attirance pour les femmes. Nous parlons de la petite dernière d'Avia Herzi.
Cinérama.
Je comprends pas.
Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
On pourrait croire qu'avec La Petite Dernière, Avia Herzi nous refait le coup de Tu mérites un amour, son premier film en 2019 dans lequel elle tenait le rôle principal. Alors certes, les ingrédients sont sensiblement les mêmes, banlieue, famille chaleureuse, premiers émois. Sauf que cette fois, la réalisatrice va un peu plus loin. Et c'est Nadia Meliti qui nous emmène. Une jeune première qui s'est vue récompensée du prix d'interprétation à Cannes cette année où La Petite Dernière était présentée en compétition officielle. Le film, lui, a été distingué, on le disait, par la Queer Palm. C'est une adaptation du roman éponyme de Fatima Das sorti en 2020 qui explore avec sensibilité les tensions entre foi, orientation sexuelle et identité dans la jeunesse contemporaine.
Salam tout le monde.
Salam ma fille.
Ça va Yéma ?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien.
Je vais faire comment plus tard avec ton mari ?
On sera pas là. Hein. Quel mari qui va vouloir l'épouser ? Oh, elle a zéro féminité, regarde.
Comme ça. Lui alors ?
Fatima, 17 ans, est la cadette d'une sororie, hein, une fratrie de plusieurs sœurs, une famille algérienne, joyeuse et aimante. Elle est fan de foot, elle fréquente un garçon musulman, respectueux. Bonne élève, elle passe le bac avant d'intégrer la fac de philo à Paris, où sa vie de jeune adulte commence réellement. Entre émancipation familiale et découverte de soi, elle explore ses désirs, découvre l'amour, découvre aussi son désir pour les femmes, tout en continuant à vivre sa foi. Sa rencontre avec une femme plus assumée, incarnée par l'impressionnante Mouna Swalem, qui a notamment le premier rôle dans la série Cimetière indien actuellement sur Canal+, va aider donc Fatima à ouvrir son regard sur elle-même sans transformer sa religion en antagoniste caricatural.
Comment t'as su que tu préférais les femmes ?
Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes. Et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
Avia Herzi signe un film profondément sensible, attaché au quotidien, revendiquant l'héritage de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Les scènes de repas autour de la table sont centrales et véritablement vécues. Les moments de vie familiale respirent l'authenticité. Le personnage de la mère, nourricière, incarnée par Amina Ben Mohamed, qui n'avait jamais joué, fait vraiment la cuisine. Elle prépare réellement ses petites madeleines, ce qui participe à un réalisme presque naturaliste. La réalisatrice a veillé à ce que rien dans la mise en scène ne paraisse artificiel. Demandant notamment à ses équipes de tournage des costumes qui ne ressemblent pas à des costumes, des décors qui ne fassent pas décor. Et cette attention aux détails sert un récit subtil. Fatima, jeune femme musulmane, croyante, pratiquante, découvre son désir pour les femmes et tente de concilier foi et identité sans opposition drastique, caricaturale. Ce qui compte, c'est son expérience à elle. Elle est donc de tous les plans et de tous les gros plans. Même le discours attendu de l'imam n'écrase pas la finesse des émotions de l'héroïne. Le film choisit de montrer montrer les tensions et contradictions intérieures plutôt que d'imposer un conflit frontal. Je suis Fatima Das, voilà comment s'ouvre chaque partie de l'autofiction de l'autrice, et c'est cette même litanie qui structure implicitement le film. L'ensemble fonctionne donc grâce à la force tranquille de Nadia Meliti, qui oscille entre sensibilité et détermination, pudeur et audace, tradition et modernité. Et il fonctionne grâce à la manière dont Asia Erzi filme l'intimité de sa protagoniste, évitant l'écueil de scènes sexuelles performatives, comme dans La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, et privilégiant plutôt des choix de mise en scène pertinents. Un dialogue cru et comique dans une voiture possède une charge évocatrice tout aussi efficace.
Oh, j'adore, t'es tout timide.
C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoupe ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre. Hein.
L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux.
La petite dernière confirme Asia Erzi comme une portraitiste sensible, une réalisatrice attentive aux récits manquants du cinéma français. Le film brille par sa délicatesse, son réalisme et ses interprétations justes. Bien qu'un peu lisse, il a le mérite de raconter des histoires de jeunes femmes au plus proche d'elles, sans tomber dans le sensationnalisme ou le cliché. La petite dernière ouvre une fenêtre nécessaire sur des identités rarement représentées à l'écran, une invitation donc à élargir notre regard sur la jeunesse et ses contradictions avec humour et empathie.
La petite dernière d'Asia Erzi, qui a de grandes chances au César, j'ai l'impression, est en salle depuis le 22 octobre. Une fillette rencontre un mystérieux garçon venu du futur et à travers leur amitié découvre l'espoir, la solidarité et la magie de l'enfance. Nous parlons maintenant de la fable écologique Arco.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
Voilà un premier film d'animation qui tape juste. Arco de Hugo Bienvenu est le film qui a remporté le cristal du long métrage au Festival d'animation d'Annecy, soit le prix le plus prestigieux. Il succède à Mémoire d'un escargot, merveilleux film d'animation d'Adam Elliott sur la solitude et la résilience face au traumatisme. Pour Arco, l'ambiance est bien différente. Il s'agit d'un récit de science-fiction à double niveau. Disons qu'il y a deux futurs. Il y a celui du jeune Arco et celui dans lequel il tombe en 2075. La jeune Iris, 10 ans, voit tomber donc du ciel un garçon mystérieux vêtu d'une combinaison arc-en-ciel, c'est Arco. Il vient d'un futur lointain, utopique, l'an 2932, c'est loin, où les voyages dans le temps sont possibles. Iris le recueille et malgré leurs différences d'époque, s'engage à l'aider à retrouver sa voie pour rentrer chez lui. Pourquoi Arco a échoué dans son voyage ? Eh bien, c'est qu'il est parti seul sans en avoir l'autorisation. Avant 12 ans, on ne voyage pas dans son monde. Son père le lui rappelle, mais pour lui, c'était trop tentant de voir les dinosaures. Tiens, une espèce qui a disparu. Car l'un des enjeux du film est bien là. Le temps principal du film est le monde dans lequel vit Iris, un monde qui serait le proche futur d'une autre, dans lequel les parents travaillent loin et vivent en visio avec leurs enfants qui, eux, sont à la campagne, pris en charge par des robots en qui on peut avoir finalement toute confiance, sauf quand ça bug. Et quand Arco arrive, ça bug. Arco provient d'un futur, lui, lumineux, idéal, qui sert de miroir critique au monde actuel. Dans le monde d'Iris, il y a des vents violents, des cataclysmes contre lesquels seuls des cloches au-dessus des maisons assurent protection. Le récit pose des questions sur le progrès, le bien-être collectif et la possibilité d'un monde meilleur. Il le fait alors d'une belle manière. Iris aide Arco sans se poser de questions. Si à un moment on pense que des méchants sont à leur trou, il n'en est rien. Et c'est là l'une des grandes valeurs du film. Il n'y a pas besoin de méchants pour faire progresser le récit. Ceux qui prennent un temps ce rôle sont des sortes d'ufologues égarés ayant conservé leur âme d'enfant. Ils sont trois. Le film est vraiment traversé d'ailleurs par l'enfance et le contraste d'un monde mourant dont on sait qu'il a pourtant un futur. Les images sont belles, l'animation est très fluide. Alors on sent une apparenté avec un Miyazaki. Hugo Bienvenu fait le choix de la couleur avec des capes ou des lunettes arc-en-ciel. Le réalisateur a raconté à longueur d'interview qu'il ne voulait pas mentir aux enfants. D'une certaine manière, le futur qui nous est montré peut apparaître sombre, mais il fait apparaître un futur plus lointain, eh bien, où les hommes sont reconnectés à la nature. Le réalisateur a aussi indiqué qu'il voulait participer à la tradition du conte de Hansel et Gretel ou le petit chaperon rouge, qui place les enfants dans des situations auxquelles ils pourraient être confrontés afin de les y préparer. C'est effectivement un film qui, je pense, peut être vu à partir de 6 ans sans aucun problème. Alors, nous n'avons pas rencontré le réalisateur, mais son co-scénariste et complice, producteur Félix de Givry, et celui qui a fait la musique, Arnaud Toulon. Nous les écoutons.
Hugo, son travail est beaucoup basé dans la science-fiction, le travail avant Narco, les bandes dessinées qu'il a fait, tout ça, et on s'est dit que la science-fiction avait généré un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les récits des années 60-70 qu'on connaît, enfin les récits de science-fiction, intelligence artificielle, robotique, tout ça, et on s'est dit comment faire un film de science-fiction pour enfants, sans leur mentir pour autant, sans mentir sur ce qui nous attend. Et donc c'est là qu'on a eu un peu cette idée d'après-demain, qu'il y aurait un demain dans le film et un après-demain. Un après-demain où tout va mieux et un demain qui est assez fidèle, en tout cas qui est un prolongement de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire un monde où les robots vont prendre de plus en plus de place, où on est déconnecté de la nature, où les parents hologrammes sont absents, parce qu'en fait tout est, voilà, un monde plus virtuel encore que celui dans lequel on vit, qui est quand même déjà pas mal virtuel. Et du coup, le point de vue des enfants à l'intérieur de ça, c'est le point de vue pour nous de la croyance et de quelque chose qui résiste à ce monde-là. Et tout ça après, c'est imbriqué. Enfin, ça, je n'ai pas forcément toutes les explications de comment ça s'imbrique, mais ça s'imbrique par 5 années de travail et de croyance et de musique et de...
Nicky ?
Je commençais sérieusement à m'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Aucune idée.
À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où ?
Chut ! Le méchant du film, c'est l'époque dans laquelle vit Iris, et c'est tous les problèmes de monde aseptisé dans lequel elle vit, d'assistance technologique et de déconnexion qu'ont les gens de cette génération avec le monde réel, plus qu'un individu qu'il incarne vraiment.
Ouais. Mmh. Ouais, l'antagoniste, c'est la rationalité du monde, en tout cas. C'est le monde qui ne veut pas croire que les choses magiques existent. C'est ça l'antagoniste du monde. Et les Raptous, au contraire, ils ont ce côté méchant, mais goofy, un peu comme dans les Miyazaki. Et eux, au contraire, c'est des enfants qui sont restés bloqués dans l'enfance et qui justement font partie de ces gens qu'on ne croit pas, comme les ufologues, comme... on ne va pas non plus rentrer dans la théorie du complot ou tout ça, mais comme des gens qui ont des croyances fortes et auxquelles le monde leur oppose juste le côté cartésien et l'explication. Et...
Si je venais avec toi, Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux ? Comme dans les histoires.
Alors, j'ai posé des questions sur le doublage, parce que le casting de ce doublage est vraiment costaud, avec Swan Arlo, Vincent McCain, Osmo Puccino ou encore Louis Garrel. Et je me suis demandé à quoi ça servait d'avoir un acteur réputé pour le doublage.
La plupart des films d'animation, ça se fait avec un micro face à un écran, comme un doublage. Et là, c'était un dispositif qui était dans un studio où les acteurs pouvaient évoluer dans la pièce, pouvaient se déplacer. Quand les enfants jouent dans le jardin, ils le font vraiment, ils courent dans le studio. Ouais.
Et ça a pas mal joué, et donc du coup, d'avoir des acteurs de cinéma, en fait, il y avait un truc entre les enfants, je trouvais que ça s'équilibrait bien entre eux. En fait, ce qui est particulier, c'est que la plupart du temps, les acteurs de doublage, c'est une espèce d'étiquette, pas les acteurs de doublage, mais les acteurs connus pour avoir un peu d'argent, une illusion d'avoir de plus. Nous, on avait déjà financé le film, donc on avait pas besoin vraiment d'eux pour mais en revanche la plupart du temps quand on enregistre les voix, les films est déjà animés ou pré-animés, nous il n'était pas encore animé, enfin en tout cas il y avait plein de, donc par exemple Vincent McCain, il a énormément apporté au personnage de un des trois frères, et on a beaucoup réanimé ou même rajouté des plans par rapport à la matière qu'il a faite. Donc je dirais bah oui, au contraire, ça a amené d'avoir quelqu'un qui a cette personnalité-là et ce grain de voix.
Et puis, autre question, hein, c'était sur bien les moyens de production, parce que l'animation française a quand même beaucoup de succès et ça tient visiblement au mode de production. C'est ce que nous dit Félix de Givry, qui a fondé avec Hugo Bienvenu, le réalisateur, les studios d'animation Remembers.
Souvent, l'animation, les films d'animation, c'est souvent des adaptations ou il n'y a pas beaucoup de récits originaux. Donc ça, c'est un premier point. Parce que en fait, je pense que les gens qui financent les films, ils ont besoin de se dire ah, cette BD, ça va cartonner, ça va faire un super film d'animation, ce qui est à mon avis problématique. L'autre gros problème pour moi de l'animation française, c'est que pour financer les films qui coûtent très cher, la plupart du temps, ils ont besoin de faire des coproductions en Europe, en machin. Donc les films sont éclatés entre plein de studios, souvent en Europe, mais parfois même au Canada, enfin dans le monde entier. Et du coup, parce que l'animation, c'est un médium qui est éclatable, parce qu'il y a plein d'étapes, et donc du coup, c'est possible. Et c'est pour moi un travers dans la fabrication, parce que les films se perdent, ça devient très très lourd, les gens prennent beaucoup de temps, et je pense que ça nuit à la qualité des films qu'on peut produire. Voilà, moi, je conseillerais de suivre des modèles où les réalisateurs ont leur studio et où en fait voilà, c'est Miyazaki, Disney, ça c'est les références les plus connues, mais j'ai l'impression que quand le réalisateur a son studio et maîtrise la fabrication, ça change beaucoup, beaucoup de...
C'était Félix de Givry que nous écoutions. C'est le co-scénariste de ce film d'animation vraiment très réussi qui s'intitule Arco et qui est en salle depuis le 22 octobre. Traqués par leur cauchemar, Finney et Gwen doivent affronter à nouveau le tueur d'Alpine Lake. Nous parlons de Black Phone 2 et c'est Guillaume qui s'en charge.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
L'attrapeur, vous connaissez ? Je l'ai tué.
Ce qu'il a vécu dans cette cave, ça l'a transformé. Finn, j'ai fait un cauchemar.
On semble les oublier, mais Jason Blum et sa boîte Blumhouse continuent à sévir sur les écrans, même si les grands succès de leur franchise historiques, comme American Nightmare, sont désormais assez loin. Alors si on met de côté hein, le genre de succès hallucinant comme celui du ridicule Five Nights at Freddy's qui va bientôt avoir une suite, Blum essaie de capitaliser sur les films du catalogue ayant marché. Alors en 2022, Black Phone avait réussi à trouver son public et malgré une fin voyant son boogeyman joué par Ethan Hawke, hein, complètement déchaîné, se faire fracasser le crâne. Après tout, l'affiche et le pognon le clament fièrement, la mort n'est qu'un mot pratique, efficace et normalement imparable.
Tu as cru que notre histoire était finie ?
T'es mort.
Toi, plus que quiconque. C'est que la mort n'est qu'un mot.
Adapté d'une nouvelle de Joe Hill, fils de Stephen King, Black Phone raconte l'histoire d'un tueur sadique, l'attrapeur, qui enferme des enfants dans un sous-sol obscur, n'ayant pour seul compagnie qu'un téléphone mural. Et oui, on est en 1978. Alors mordant dans le fantastique, le final voyait sa dernière victime, Finney, s'en sortir. Et c'est justement le fantastique qui va faire revenir l'attrapeur d'entre les morts et dans la vie de Finney. Alors il est désormais âgé de 17 ans, et alors qu'il a du mal à vivre normalement suite aux événements du premier film, le fameux Black Phone se met à sonner dans les rêves de sa sœur Gwen, où elle voit sans cesse trois garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Alors déterminé à mettre fin à ses cauchemars et à en percer le mystère, Gwen persuade son frère de se rendre sur place, malgré le blizzard qui frappe la station, et patatras, non seulement elle va mettre à jour un lien entre l'affreux Jojo et sa famille, mais la mort l'a rendu littéralement invincible. Ou presque. Alors, on le sentait, la franchise va lorgner du côté des rêves interdits de la saga Freddy, en gardant l'éthique du réalisateur Scott Derrickson, à savoir des images en pellicule désaturée d'où surgit le mal. Alors, c'est déjà à l'œuvre dans les séquences les plus marquantes de Sinister, également produit par Blumhouse. Le problème, c'est que les règles très vaporeuses de ce monde onirique partent dans tous les sens au fur et à mesure qu'avance le film, ce qui ne laisse plus que de vilains jumpscares pour accrocher les wagons jusqu'au final. C'est bien dommage, car s'il n'a jamais vraiment su comment emballer complètement un film, Derrickson sait utiliser ses ambiances et plusieurs séquences marquantes. Hein, et de Sinister à ses deux Black Phone, a su utiliser l'excellence du jeu d'Ethan Hawke. Alors à voir si on éventuellement programmé Black Phone 3 saura remonter ça, même s'il sait être déjà, le 2, un agréable divertissement sanguinolent pour Halloween.
Black Phone 2 est déjà en salle hein, depuis le 15 octobre. Traqué après la guerre, Joseph Mengele se cache en Amérique du Sud, fuyant sans fin la justice et sa propre conscience. Nous parlons du dernier film de Kirill Serebrennikov.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Joseph Mengele, le médecin attitré du camp d'Auschwitz-Birkenau, a réussi à fuir l'Allemagne nazie en déroute. Poursuivi pour crime de guerre, il n'a jamais été rattrapé. Hein. Il a vécu jusqu'en 1979 en Amérique du Sud, entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil, bien aidé par des partisans nazis, sans jamais être jugé. Et c'est cet homme que Kirill Serebrennikov a choisi de suivre en adaptant le roman d'Olivier Guèze qui a obtenu le prix Renaudot en 2017. Après Tchaïkovski en 2022, Limonov l'an dernier, formidable film démontrant les talents de mise en scène du cinéaste russe, eh bien c'est à une figure beaucoup plus hein, polémique que Serebrennikov s'attache. Difficile d'avoir de l'empathie pour un personnage comme Mengele, et d'ailleurs on n'en aura aucune, hein, d'autant que le cinéaste russe a choisi d'adopter l'unique point de vue de Joseph Mengele qui n'a jamais varié dans son soutien à l'idéologie nazie.
Joseph, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
On devrait dire donc Mengele, mais je ne le dirai pas, je dirais Mengele, comme on dit en France. Enfin, je crois. L'homme, quand il travaillait à Auschwitz, pratiquait des expériences médicales sur les détenus, qui étaient donc des animaux de laboratoire. Toute humanité était éradiquée. Cette période, Kirill Serebrennikov, qui joue avec la temporalité, nous en dévoile quelques images. Alors que le film est servi par un noir et blanc qui impose une certaine forme de distance, eh bien, il choisit la couleur pour nous plonger dans l'antre des camps de la mort. Il fait en sorte que ce que nous voyons soit ce que les Allemands ont finalement documenté, eh bien, sauf qu'ils ont tout brûlé. Hein. Il ne restait que des photos des sombres expériences de Mengele. C'est donc un travail de reconstitution que ce livre-là, le réalisateur. Le film commence de manière d'ailleurs surprenante. Un des étudiants en cours d'anatomie examine un squelette qui serait celui du médecin d'Auschwitz. Il y a plusieurs sens à cette ouverture qui apparaît pourtant anecdotique. Alors il y a une ironie, hein. Le médecin nazi qui a étudié les corps de ses victimes avec une froide rationalité pseudo-scientifique devient lui-même un objet d'étude. Et puis, eh bien, il y a une vision peut-être plus symbolique avec un passé qu'il faut disséquer. La mémoire de Mengele n'est plus incarnée mais archivée à la manière de ses os qui ont été exhumés. Kirill Serebrennikov va raconter la fuite du médecin. On observe sa vie depuis sa mort.
Möge unser Schlaf frei von nächtlichen Albträumen sein.
Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
Pour filer la métaphore de ce squelette, on pourrait dire que le réalisateur use d'un montage organique. Hein. Il réorganise des fragments de vie et l'ensemble du film obéit à une sorte de dissection pour observer l'emprise du mal chez un être qui n'a jamais renié sa participation à l'horreur nazie, n'a jamais pensé s'excuser de ses actions et ne comprenait pas bien ce qu'on lui reprochait. Joseph Mengele est resté un être profondément xénophobe jusqu'à sa mort. Alors il est très intéressant de voir les rapports qu'il entretient avec les gens en Amérique du Sud, qu'il juge forcément très éloignés du modèle arien. Le film procède par différents allers-retours entre différentes donc, temporalités. L'une d'entre elles confronte Mengele avec son fils qu'il avait quitté en fuyant son pays. Drôle de tête du médecin hein, quand il voit arriver dans les années 70 un fiston avec les cheveux longs. Celui-ci vient à la rencontre de son père pour comprendre ce qu'il fut, se heurtant finalement à un vieillard resté dans les certitudes de sa jeunesse, tandis que le monde, oui, le monde a changé. Dans ces flashbacks, on voit comment Mengele a joui d'un confort relatif quand il est arrivé en Argentine, protégé par le gouvernement de Perón, et puis comment à mesure qu'il vieillit, eh bien, se retrouve seul, englué dans la pauvreté, à vivre dans une vieille maisonnette de la banlieue de Sao Paulo. Tout au long de sa vie, il aura la peur d'être capturé, jugé pour des crimes qu'il continue de revendiquer. Auguste Diehl, qui interprète celui qu'on surnommait l'ange de la mort, à tous les âges de la vie, est remarquable. C'est la déchéance d'un homme qui est à l'œuvre, son obstination pathétique, sa morale abjecte, un être à qui nul homme ou femme ne veut ressembler. Ce film formidable, peut-être un peu rude, mais exemplaire, La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov est en salle depuis le 22 octobre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec deux interviews dans Cinérama. Il y en aura une de François Ozon pour le film L'Étranger, adaptation de l'ouvrage de Camus. Et puis toi, tu as rencontré un autre réalisateur.
Et oui, j'ai rencontré Simone Messasotto pour son film Un poète.
Et puis tu nous parleras aussi d'un film qui était présent à Cannes.
Ouais, c'est le dernier Cliffa, la femme la plus riche du monde.
Avec Isabelle Huppert. À la semaine prochaine.